Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, Romans chapter 7, Romains chapitre 7 et les versets 14 à 25, verses 14 through 25. Romains 7, 14 à 25. J'ai intitulé l'étude de ce matin « Tiraillé par de multiples forces ». C'est un passage qui nous parle de toutes ces forces qui agissent sur nous et qui nous tirent d'un côté et de l'autre. Et c'est une lutte constante. Et donc, vous comprendrez cela lorsque nous lirons ces versets. Donc, je commencerai à lire à partir du verset 14. Il dit « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc il loue le Seigneur, puis il dit voilà, les faits sont ainsi. Il y a cette lutte, ce tiraillement, et il le vit. Si je parle de force qui interviennent, eh bien, peut-être je vous renvoie à vos cours de physique, où on vous a parlé des forces qui agissent. Et c'est pour moi, ça remonte assez loin, les années au lycée où j'étais en cours de physique, mais c'est là où j'ai entendu parler des forces la première fois. Je répète quand même que ici, depuis le chapitre 5, il s'agit de quelqu'un qui a été justifié par la foi. Donc, le chapitre 5, il dit, pour ceux qui ont cru, ceux qui ont entendu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, qu'ils ont compris qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin que quelqu'un meure pour eux, qu'ils l'ont reçu, qu'ils ont accepté par la foi, eh bien, ces personnes sont justifiées. Et donc, depuis le chapitre 5, il s'agit d'une personne qui est justifiée, donc un enfant de Dieu. Et ce chapitre, donc, puisqu'il est là, donc, il concerne l'enfant de Dieu. Donc, ne disons pas que c'est les gens du monde, mais le chrétien, lui, il n'a plus de problème, tout va bien, et ce n'est pas vrai. Et l'apôtre Paul, lui-même, il nous étonne, mais il a dit, mais c'est une réalité. Au premier abord, cette lecture, et surtout si c'est la première fois que vous lisez ce passage, je dis, je ne comprends pas, je comprends qu'il y a un tiraillement, je comprends qu'il y a des forces, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et permettez-moi de prendre une illustration d'abord, pour un peu nous aider à comprendre ce qui se passe dans la vie de l'enfant de Dieu. Supposez que j'ai une voiture avec laquelle je projette d'aller du point A au point B. Donc voilà, j'ai un trajet et je veux aller, je quitte A pour aller à B. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans ce déplacement de la voiture, hein, parce que, comme vous le savez, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas parce que je veux qu'elle parte, qu'elle bouge, qu'elle va le faire, hein. D'abord, il faut un conducteur, hein, qui connaisse le chemin. Sinon, on peut aller dans tout n'importe quel sens, hein. Et puis, s'il y a une route qui mène, c'est très utile, hein. Et aussi, bien sûr, la nature du revêtement, hein, de la route, hein, si c'est du goudronné, ce sera plus facile que si c'est du gravier, ou si c'est du sable, ou si c'est rocailleux. Hein, donc la nature de la route influera énormément sur le trajet. Bon, c'est pas nécessaire de dire qu'il faut du carburant, hein, qui correspond à la voiture, hein, sinon. Et puis ensuite, là, j'ai parlé seulement de choses qui vont dans le sens, qui favorisent le déplacement, qui assistent le trajet. Mais vous savez qu'il y a aussi pas mal de choses qui interviennent, qui s'opposent à ce que je fasse ce trajet. Par exemple, la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur ralentit. Hein, et la loi de pesanteur, si la voiture est plus lourde, si elle est plus chargée, la force de la pesanteur est encore plus grande, elle tire encore plus fort. Et puis surtout si la route est en une montée, alors ça favorisera la force de la pesanteur qui va tirer dans l'autre sens et rendre la tâche plus difficile. Il y a aussi, bien sûr, on pourrait avoir un vent contraire. Donc ça va s'opposer au déplacement. On pourrait avoir aussi un brouillard épais. Et alors là, ça va être un obstacle aussi. Donc il y a tous ces éléments qui favorisent le déplacement. Et puis après, il y a toutes sortes de forces qui interviennent pour empêcher le déplacement et que pour freiner la chose. Et bon, tellement on a l'habitude, on n'y pense même plus, hein, mais sauf parfois, peut-être on se dit, oh, ça a pris un peu plus d'essence cette fois-ci que la dernière fois. Hein, mais enfin, il s'agit de ces forces qui agissent sur la voiture pour nous empêcher de faire le trajet ou pour rendre la tâche plus difficile. Et la vie, elle peut ressembler à cela. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la vie chrétienne, c'est comme ça aussi. Hein, c'est pas parce que j'ai décidé, voilà, moi je vais suivre le Seigneur, je vais faire ça. C'est pas pour ça que il n'y a pas de résistance et comme on dit, c'est comme sur des roulettes. Hein, c'est pas du tout ça. Et si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça. Hein, il y a beaucoup de forces contraires. Vous pouvez vouloir vivre pleinement pour le Seigneur, et puis il y a certainement qu'il y a eu ce moment où vous dites, moi, ça y est, je veux vivre pour le Seigneur, plus rien. Et puis, très vite, bien, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas si possible que cela. Parce que on se rend compte qu'il y a des anciennes habitudes qui sont là, hein, qui apparaissent, et très vite. Hein, je dis, ouais, je vais me lever le matin, je vais prier, puis 2 jours après, on a du mal à se réveiller. Ouais, tout de suite, il y a quelque chose qui rend la tâche difficile. On peut avoir une vie récréative, une certaine vie récréative, et puis après on se dit, ah, mais ça correspond plus, ou ça va plus, ou ça prend tout mon temps. Hein, et certains ont ces. C'est des passions pour certains sports, mais ça prend tout leur temps et ils n'ont rien, plus rien qui reste pour leur vie chrétienne. Il peut y avoir des responsabilités avec la famille. Hein, le travail prend du temps. Hein, l'entretien de la maison, toutes ces responsabilités prennent du temps et plus qu'on ne pense. Hein, il y a aussi. L'employeur, il a des exigences pour nous et tout ça freine et ça fatigue. Et quand on se retrouve sur notre propre temps, eh bien, on est épuisé, on a donné le meilleur à l'employeur. Et là, tout d'un coup, on dit, fou, je suis fatigué, j'ai pas, même si j'ouvre la Bible, je vais dormir. alors autant dormir confortablement. Hein, ce sont des luttes. Et après, il y a les attentes des amis. Hein, on ne te voit plus, tu n'es pas là, viens. Et puis, il y a les amis qui... Ça tire aussi, ça freine, ça nous distrait. Et tout ça, ça rend la tâche, cette marche avec le Seigneur, la rend difficile. Hein, ça, c'est des choses qui freinent, c'est comme les cailloux sur la route, c'est comme le sable sur le chemin, ça ralentit et ça demande un redoublement d'efforts. Et puis ça, c'est sans parler, hein, ça c'est juste la vie de tous les jours, sans parler de les pressions contraires qu'on a dans la société, hein, à l'école, les idées contraires, les réflexions des autres. Du temps que j'ai du mal à trouver pour mon culte personnel. Hein, je cherche un moment, je dis, je vais essayer à tel... Voilà, j'ai une coupure là, je vais le faire à ce moment-là. Puis après, c'est interrompu par quelque chose. Je dis, je vais le faire le soir. Et puis après, je m'endors. Alors je dis, je vais le faire le matin. Et le matin, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché tard déjà. Et c'est lutte constante. Et puis après, il peut y avoir des problèmes de santé qui ne rendent pas la tâche plus facile. Hein. Et finalement, très vite, on a ce sentiment que notre route, ce n'est pas une autoroute, sur du plat, et avec le vent qui pousse, mais on se rend compte qu'on est sur un sentier tortueux, sablonneux et pentu. Et c'est une lutte. Et c'est pas pour décourager, c'est la réalité. Et on veut parler, on veut savoir exactement où on en est. Et l'apôtre Paul, il traite la chose. Il a dit plein de belles choses, mais il dit, mais bon, je veux vous rappeler certains ceci. Et on a l'impression que le véhicule, il est chargé. Et la charge est difficile à déplacer. Hein, et c'est exactement ce que vit l'apôtre Paul dans ce passage. Hein, il dit je veux, mais j'ai plein de forces contraires qui me freinent. Et parfois, et c'est pour ça qu'on en parle de ce sujet-là, parce que parfois le diable il vient nous dire, il nous dit mais tu vois toutes les difficultés que tu as. Écoute, laisse tomber, toi tu n'y arrives pas. Peut-être il y en a d'autres qui arrivent, mais toi. C'est pas pour toi, ça. Laisse tomber. Laisse-toi aller. Et c'est pas vrai. C'est la difficulté. L'apôtre Paul l'a ressenti. L'apôtre Paul, celui qu'on admire, on a l'impression qu'il était vainqueur de tout et lui, il n'avait plus de problème. Ben lui, il dit, non, la réalité, c'est ça. Hein? Il parlait de sa propre expérience. Il n'a pas dit, comme je viens de le faire, je dis vous et tout et nous. Et lui, il a dit je. Hein? C'est lui lutter avec cela. Et là, moi je viens de mentionner des choses que je mentionne, ce sont toutes des forces extérieures. Et déjà là, c'est compliqué. Mais l'apôtre Paul, il parle en plus, il a dit, mais j'ai des choses, des forces intérieures qui me freinent aussi. Et Paul les a acceptées. Il n'a pas parlé finalement des forces extérieures, il n'a pas dit « Ouais, j'ai les juifs toujours après moi, j'ai le paganisme qui est là, j'ai les voyages, longues routes à faire, et puis c'est à pied. » Non, il n'a pas parlé de toutes ces choses. Lui, il a parlé des luttes internes. En plus, c'est encore plus compliqué. C'est la partie que personne ne voit. Mais il les a acceptées. Et il nous les décrit. Et donc, c'est pour nous aider à comprendre, à comprendre ce qui peut, comment les choses qui nous passent intérieurement peuvent nous affecter rapidement. Laissez-moi vous rappeler l'exemple, le récit de Pierre quand il a marché sur l'eau. Rappelez, par rapport aux forces extérieures, il y avait le vent, il y avait les vagues, il y avait marcher sur l'eau. Déjà, c'est pas une chose commode, hein, parce qu'il y a la pesanteur qui envie de nous attirer vers le fond de la mer. Mais la Pierre, Jésus lui avait dit, viens. Et quand Jésus dit viens, eh bien la force dans cette parole était là pour lui permettre de marcher sur l'eau. Et il marchait sur l'eau. Et puis tout d'un coup, il commence à couler. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il commence à couler? C'était pas, le vent était toujours là, la mer, les vagues étaient toujours là, Jésus était toujours là, Jésus marchait lui-même sur l'eau. Alors pourquoi un moment il marche et un autre moment il est en train de couler? Vous savez, couler ça va vite hein, quand on est debout sur l'eau. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, il nous dit, il a vu le vent. Et il a douté. Juste une pensée qui a traversé l'esprit. Il dit, waouh, il y a un coup de vent là, je suis sûr. Et puis, vous savez, en très peu de temps. Et vous savez, dans notre marche et dans notre vie chrétienne aussi, parfois il suffit, juste un doute qui nous passe par l'esprit et ça nous ralentit dans notre élan pour le Seigneur. Je tombe sur un je lis un passage et puis je comprends rien ou bien il y a une pensée qui me va par l'esprit, je dis mais comment est-ce que Dieu a permis une chose pareille? Et puis tout d'un coup je me rends compte que l'envie de lire la parole est diminuée très vite. Avec, il suffit qu'une pensée me traverse l'esprit, il suffit que, et combien de fois alors, il suffit que quelqu'un dise quelque chose sur moi hein. Et le fait que la personne a dit quelque chose sur moi, tout d'un coup, je suis en train de penser à cette personne-là plutôt que de penser à Jésus. Hein? Et celui qui m'a dit « marche », eh ben, je ne pense plus à lui. Je suis en train de penser à un autre qui n'a pas le pouvoir de me faire marcher. Mais en fait, il me fait couler. Et pour très peu. Hein? Et nous avons cette frustration dans notre marche quotidienne. On a l'impression que constamment, il y a quelque chose qui veut nous faire couler, il y a quelque chose qui veut nous arrêter, il y a besoin de nous distraire, et c'est une lutte constante. Écoutez, si c'est vrai chez vous, et puis si vous me dites la vérité, je sais que c'est vrai, vous n'êtes pas le seul. En fait, c'est le combat de chacun d'entre nous. Et c'est même, c'est pas à cause d'une faiblesse, c'est la vérité. Et même l'apôtre Paul, lui qui, en tant qu'inconverti, était fort, et en tant qu'au Seigneur, eh bien, là, il lutte. Avant, il disait, moi, je réussissais, je pouvais, j'étais irréprochable, on l'a vu la semaine dernière, irréprochable par rapport à la loi, je peux, j'arrivais et tout. Et maintenant qu'il est au Seigneur, il dit, oh, c'est un combat. Il dit, je lutte constamment. Je vous rappelle que par rapport à Pierre, tout de suite, dès qu'il a dit « Seigneur, sauve !» tout d'un coup, il marchait à nouveau. Hein? Bon, on coule vite, mais si on a ce réflexe « Seigneur, mes pensées, je les veux sur toi, je veux ta parole, je veux m'appuyer sur ta promesse. » Et tout d'un coup, il a pu marcher jusqu'à retourner dans la barque. Hein? Et donc, c'est exactement comment les choses se passent. Oui, j'ai dit une critique où tout d'un coup, il y a quelque chose qui est dit, ou un jugement qui est fait sur nous, et tout d'un coup, tout se transforme en un tourbillon de colère et des pensées qui nous passent dans tous les sens. Et au lieu de penser à l'œuvre de Christ, on est en train de penser à tout ce que je sais sur ce gars-là, et puis s'il se voyait, hein, et puis s'il savait ce que je sais sur lui, et puis tout d'un coup, on est en train de penser à tous ses proches. Ben ça ne fait que nous abaisser. Hein. C'est la loi de la pesanteur qui nous tire vers le bas. Hein. Et tout d'un coup, notre progression est interrompue. Ça n'avance plus. On a crevé un peu. Et il faut réparer pour reprendre la route. Ça, écoutez, je me dis, c'est pas pour décourager, hein, mais c'est la réalité. C'est la première chose que je veux dire, c'est du vrai. Ça arrive. Hein? Et nous luttons tous avec cela. Mais ce n'est pas parce que toutes les voitures ont des pneus qui peuvent être crevés qu'aucune voiture n'arrive à sa destination. Hein? Donc, et l'enfant de Dieu, malgré tout ce qui peut arriver, vous savez, nous pouvons arriver à la destination, et c'est pour ça que l'apôtre Paul veut nous encourager. Donc, tout cela est vrai. L'apôtre Paul parle aussi des autres forces qui sont internes ici, et là, nous allons regarder dans le passage, et les forces qui s'opposent. Regardez au verset 14. Il parle de la loi spirituelle, et puis il dit aussi, il parle du charnel. Hein, je suis charnel. Il y a le spirituel, il y a le charnel. Charnel, dans le sens que c'est la nature pécheresse. Au verset 18, vous voyez, il dit « Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. » Il y a la volonté, et puis le pouvoir. Et ils ne vont pas dans le même sens. Verset 19 et 21, il nous parle, il dit je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il parle le conflit entre le bien et le mal. Hein? Le bien selon ce que Dieu pense être bien et mal ce que Dieu pense être mal. Et il dit, c'est cette lutte. Au verset 21, parle du « Je trouve donc en moi cette loi, je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hein, » Donc le bien et le mal sont là. Et au verset 23, il parle de la loi de Dieu, de la loi de l'entendement. Il y a ce que j'ai dans ma tête, et puis après il y a ce que Dieu a dit, et il y a un conflit entre ce que moi je pense être vrai, mais bon, et puis à ce que Dieu dit, et des fois il y a un conflit là aussi à ce niveau-là. Donc il dit, en moi il y a des luttes, et ça tire dans tous les sens. Mais ce qui infecte tout cela, en fait, pour vraiment la racine de tout, ces lois et ces forces qui s'opposent à ma progression et mon avancement avec le Seigneur, eh bien, ça revient au péché. Hein. Et le mot péché revient plusieurs fois. Il dit le péché, pas les péchés. Hein. Le péché, hein. La nature pécheresse, ce qui est venu dans l'homme depuis la chute, quand Ève a désobéi et quand elle a voulu être comme Dieu, eh bien, ça a fait une œuvre, il y a le péché qui est entré. Donc, verset 14, il dit « Je suis charnel, vendu au péché ». C'est-à-dire, je suis sous le pouvoir du péché. Au verset 17, il dit, c'est le péché qui habite en moi, hein, qui demeure, qui s'est installé, qui est chez lui en moi. Au verset 20, c'est la même expression, il dit, c'est le péché qui habite en moi. Au verset 23, il dit, captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Captif, hein, prisonnier, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis dominé par le péché qui est dans mes membres. Hein. Et au verset 25, il parle, il dit « Je suis par la chair esclave de la loi du péché ». Il emploie des mots très forts. Et il dit, mais c'est toujours le péché. C'est le péché par différentes manières, qui est installé à différents niveaux, que ce soit par des traditions, par des habitudes, par tout ça. C'est le péché qui tire et qui tire vers le bas. Et nous sommes rappelés donc que même si nous sommes enfants de Dieu, hein, nés de nouveau, racheté, le Saint-Esprit est en nous, nous appartenons à Dieu, et tout cela. Et dit, mais ça ne diminue rien aux forces qui sont encore là. Les forces de ma vie passée, les forces qui étaient en moi quand j'étais perdu, les forces sont encore là. Et finalement, je trouve, j'ai une nouvelle nature en Christ, et puis il y a une ancienne. L'ancien Steve, il est encore là, et le nouveau, il est là aussi. et c'est, ils sont en train de se tirailler l'un l'autre. Et l'un tire vers le haut, l'autre tire vers le bas. L'un cherche la sagesse d'en bas, l'autre cherche la sagesse d'en haut. Hein, c'est, et c'est ce combat qui est là et qui me freine, mais en même temps, vous savez, un athlète qui veut développer de l'endurance, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute du poids au pied pour donner plus de force à la pesanteur. Cette force qui est opposée, eh bien, il lui donne les moyens de tirer encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il veut développer de l'endurance. Et vous savez, c'est pas cette lutte, c'est pas fait pour nous détruire, mais c'est fait pour nous encourager, pour nous rendre. Hein, sinon, on serait des mous. Hein, c'est comme celui qui est jamais sorti du lit. Ben, il n'a fait que dormir toute sa vie. Ben, il est pas, il dure. Ou bien celui qui est gâté, il a toujours tout eu. On lui a donné tout ce qu'il voulait. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Ben, celui-là, ben, vous savez, le moindre problème, c'est une catastrophe. Et vous rencontrez d'autres personnes qui, bon, ben, la vie, c'était depuis leur enfance, c'est dur. Et ben, c'est fou ce qu'ils arrivent à endurer. Hein. J'en ai rencontré quelques-uns. Je dis, oh, c'est pas à sa place ce que je pourrais faire. Développer de l'endurance. Je parlais une fois à un Indien, il a dit, mais nous, dans notre pays, on est habitué à la souffrance. Hein? Et on est habitué à la souffrance. Il dit, c'est pas la peine d'avoir autant de pitié que ça, nous, on est habitué. Vous, ça, quand vous le voyez, ça vous crée des émotions, mais nous, on a habitué. Il y a une endurance. Mais c'est l'enfant de Dieu, eh bien, puisque c'est là, eh bien, il va s'en servir pour développer sa maturité, son endurance, sa persévérance, et aller jusqu'au bout. Parfois, ce qui arrive, c'est, et nous en tant que chrétiens, on est très, quand même très marqués par les gens du monde, et la pensée du monde, parce que dans le monde, eh bien, on a beaucoup des choses qui sont péchés, eh bien, on en a fait une chose qui n'est pas grave. Mentir, dans la Bible, c'est une chose terrible. Dieu est caractérisé par la vérité, toujours la vérité. Mais vous savez que dans le monde, mentir, les gens mentent, et ils savent qu'on sait qu'ils mentent, et ils le mentent quand même. Hein, ils mentent pour n'importe quoi, même s'il n'en a pas besoin. Même si ça ne lui rapporte rien. Ils sont en train de mentir, c'est de la tromperie de partout. Et on s'habitue. Mais en fait, tout cela, nous, on devrait, on doit penser au mensonge comme Dieu pense au mensonge. Donc, dans le monde, peut-être je parais être assez bien, mais je me dis, mais par rapport aux exigences de Dieu, ah, je suis encore loin. J'ai du chemin à faire. Quand on lit le sermon sur la montagne, hein, dans Matthieu chapitre 6, et je ne vais pas lire tout cela, mais je vais juste montrer certaines choses. Matthieu chapitre 5, je veux dire. Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, vous savez combien de fois il dit par exemple l'adultère. Il dit, vous savez que la loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais il dit ça, et dans le monde, et de nos jours, même l'adultère, ce n'est pas grave. Hein, c'est normal. Une fois, mon frère était en retard et il n'était pas encore rentré. Et comme il faisait la Corse et tous ces virages, vous avez des virages. Et c'est une fois à droite, une fois à gauche. Et puis il faut le faire dans le bon sens, hein, sinon on se retrouve ou à la mer ou dans la montagne. Et ça faisait, il n'arrivait pas à l'heure où il arrivait normalement. Hein, il venait. Et donc ma belle-sœur s'est inquiétée un petit peu. Elle a appelé les gendarmes. Et on dit, mais madame, c'est un homme, non? Ah, écoutez, donnez-lui, laissez-le. Tout de suite, c'est permis. Écoute, il est en train de faire autre chose, ne t'occupe pas. Il viendra quand il pourra. Vous savez, dans le monde, c'est des choses. Mais Jésus dit, si tu regardes, tu as déjà commis l'adultère. Hein, y a un gouffre entre ce que monde dit et ce que Dieu réclame. Et il dit, quand Jésus parle de dit, tu ne tueras point. Nous, on s'imagine, tuer, ça veut dire vraiment tuer quelqu'un. Il est mort et puis on l'enterre. Jésus dit, non, tu, ne pas tuer, c'est mais quand tu l'insultes, quand tu le traites de fou, quand tu l'as déjà tué. Quand tu lui dis qu'il est bon à rien, quand tu lui dis qu'il ne réussira en rien du tout, tu l'as déjà tué. Et nous en connaissons des victimes. Il dit, dans le monde, on excuse ça. On trouve ça même drôle. Mais, il dit, quand on a la pensée de Dieu, on dit, non, c'est un être humain, et on le respecte, qu'il soit enfant, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit peu importe, on respecte la personne. Et on dit, waouh, je sors d'un monde où c'est, les exigences sont minimes, et j'arrive à un Dieu saint qui a des exigences. Il dit, tu te présentes devant l'autel pour prier. Et dans le monde, ben voilà, tu as le droit d'y aller, tu vas à l'église dans l'état où tu es, puis tu vas, tu dis des belles choses, et puis tu t'en vas. C'est tout bon. Ça, c'est dans le monde, dans l'excuse. Tu dis, non. S'il y a dans le cœur, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, et tu vas. Tu dois tout régler d'abord, et puis tu viens. Sinon, c'est pas bon. Et vous savez, ça change tout. Hein? On n'est pas... plus on réfléchit là-dessus, plus on voit que le décalage est immense. Et qu'il y a une transformation qui doit se faire dans nos pensées pour déjà voir nos actes comme Dieu les voit. Il parle de l'amour. Il dit, j'aime mon prochain, c'est-à-dire je ne lui ai pas fait du mal, hein, je suis gentil avec mon voisin, donc voilà, il n'y a pas de problème, hein, je suis très bien. Il dit, non, c'est pour moi, chez moi, c'est quand tu aimes jusqu'à tes ennemis, sinon tu n'es pas à la hauteur. Oh Seigneur, c'est autre chose. Comment est-ce que je peux aimer celui qui m'a voulu du tort et qui m'a fait du mal? Hein, comment est-ce que je peux aimer mon père qui a abusé de moi quand j'étais enfant? Comment est-ce que je peux, vous savez, ou cet employeur qui m'a exploité au maximum et puis qui m'a renvoyé avec rien? Comment est-ce que je peux lui pardonner? Et le Seigneur dit, oui, je sais, dans le monde, ça ne se pardonne pas et puis on te justifie. Mais quand il s'agit de Dieu, l'enfant de Dieu, il dit, waouh! C'est sûr qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance dans notre cœur pour aller jusqu'au bout avec cela. Et là, ce qu'on prend, on se rend compte, c'est qu'on a du chemin à faire pour être spirituel selon Dieu. Et l'apôtre Paul, lui qui était content de lui, avant de connaître Christ, qui dit, moi, par rapport à la loi, irréprochable, selon ton interprétation, comme on disait dimanche dernier, mais selon l'interprétation de Dieu, mais tu es terrible. Tu es un grand pécheur. Et quand Paul a compris cela, il a dit, mais je suis le plus grand des pécheurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul emploie des expressions, il dit, charnel vendu au péché. Il a dit, finalement, je me retrouve, ça a infiltré, ça a imbibé, je suis trempé dans cette pensée du péché. Et je le trouve partout dans mon corps, partout dans mes pensées, dans mon éducation, dans mes réactions, dans mes motivations, c'est partout, je suis trempé là-dedans. Et il y a un lavage qui a besoin d'être fait. Il emploie le terme aussi, il emploie le terme au verset 23, il dit « Je suis captif de la loi du péché ». Et quand il dit captif, le mot grec là, c'est pas seulement j'ai été pris, je suis prisonnier ou on m'a attrapé. Captif, ça veut dire que j'ai été pris et j'ai été emporté ailleurs. C'était ça un captif. Et c'était le mot qu'il a employé. Hein, il parlait en Luc chapitre 21 verset 24. il nous parle du fait que les enfants d'Israël, et Jésus parle de Jérusalem, et dit Jérusalem va être détruite et vous allez être emportés captifs dans les nations. Il dit je suis captif, c'est-à-dire il me contrôle pleinement. Hein, le mot captif, c'est le fait d'être pris et emporté au loin. Et c'est pas étonnant que au verset 24, l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit finalement, j'ai l'impression, et c'est une image que l'apôtre Paul fait, c'était, on se faisait parfois avec un criminel hein, qui avait commis le meurtre, et bien on lui attachait un cadavre sur lui, et puis le cadavre, ça l'infectait, ça le tuait. Lui-même, il dit, j'ai comme l'impression que j'ai un cadavre qui m'est attaché et qu'il est en train de me détruire et me tuer. Mais là, mais il ne s'arrête pas là. Heureusement pour nous ce matin, sinon j'aurais eu du mal à en parler. Mais il y a une réponse. Tout comme Pierre, quand il coulait, il a dit, Seigneur, sauve! Et puis, il n'y a plus. Et puis nous aussi, lorsque nous nous rendons compte quand on est en train d'être englouti par le péché, que ça semble l'emporter sur nous, on peut s'écrier vers l'Éternel. Et au verset 25, tout de suite après, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Il dit « Ah oui, mais attendez, c'est une réalité, c'est une lutte. Ah oui, mais la victoire, nous l'aurons. Hein, nous pouvons avoir la victoire. » Si l'apôtre Paul il parle de cette lutte-là, on a l'impression du pauvre Paul. Ah oui, mais l'apôtre Paul, il parle de la lutte. Mais la victoire, il l'a. Parce qu'il va dire aux Corinthiens, il va leur dire, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » On ne dit pas d'imiter quelqu'un qui est vaincu. On dit d'imiter celui qui est vainqueur. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Au chapitre 8, verset 37, il nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la victoire, elle est là. Hein, donc, oui, il nous a fait le catalogue, il nous a fait la liste de toutes ces forces et toutes ces oppositions et tout ce qui est là pour nous freiner. Il dit, je veux que vous preniez conscience, vous vous rendez compte que c'est là. Mais il dit, sachez que la réponse, elle est en Jésus-Christ. Et nous avons en Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Alors que les luttes internes, j'ai les luttes internes avec mon passé, avec mon éducation, avec mon entourage, ma personnalité, mon caractère, mes faiblesses, mes passions. Et d'autres peuvent ressentir cela comme des forces contraires. Et si vous ne croyez pas qu'il y a des forces contraires, demandez à votre partenaire, il va vous parler des forces contraires qui sont là. Mais il dit, loué soit Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons accès à une victoire. Il y a une solution. Et donc, il nous donne la victoire. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Mais ce qui est important, c'est l'entretien de notre vie spirituelle. Il dit t'occupe pas de ces forces-là, concentre-toi. Pierre, il n'a pas dit il faudrait vite que je fasse un cours sur la natation là, pour m'en sortir. Ça ne marcherait pas. Mais il a fait appel à Jésus qui l'a sorti. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir développer des forces par nous-mêmes. On ne peut pas. L'apôtre Paul dit, par toi-même, tu ne pourras pas. Mais il y a Jésus-Christ. Il y a l'Esprit de Dieu. Et donc, nous devons entretenir notre état spirituel, d'abord par une assiduité dans la lecture, la méditation de la parole. Ce n'est pas seulement lire les mots, hein, parce qu'on peut lire parfois, on peut lire ça et puis on n'a aucun souvenir de ce qu'on a lu. C'est de lire et de méditer. Il vaut mieux méditer un petit passage que de lire un long passage où on n'a aucun souvenir et aucune trace. Il y en a qui lisent la Bible et ça ne laisse pas plus de traces qu'un bateau qui passe dans la mer, hein, ou un avion qui passe dans les airs. Nous avons besoin de prendre ce temps de lecture, de méditation de la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit, tout y est là, mais il faut prendre le temps. Hein? Ça, c'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Il y a aussi la communion avec Dieu, entretenir cette communion avec Dieu, ce lien avec Dieu. Et pour l'entretenir, eh bien, la première chose, c'est la confession des péchés. Hein? Confesser le péché, c'est la première chose à faire pour avoir la communion avec Dieu. Et dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors déjà, c'est un poids au moins. Et puis aussi, le pardon. Le pardon, ne pas pardonner quelqu'un, c'est un truc qui freine. Hein? Ça freine toujours. Et donc, il dit, écoute, libère-toi de ces forces qui te tirent vers le bas, pardonne. Même si la personne ne la veut pas. C'est pas grave, mon problème, c'est moi, c'est pas lui. Hein? Pardonne, je pardonne, et puis le jour où il me demandera, ce sera déjà fait, je lui dirai que c'est déjà fait. Mais le pardon, ça libère. Alors, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il dit, écoute, pardonnez. Pardonnez pourquoi? C'est dans votre intérêt. Si vous voulez pouvoir faire ce trajet, vous voulez, il y a des cordes à couper. Hein? Il faut se libérer pour pouvoir. Le diable, il peut toujours me maintenir. Si j'ai des choses contre quelqu'un, si j'ai des trucs, j'ai des squelettes dans mes placards, j'ai tout ça, le diable, il se sert de tout ça pour me freiner. Mais si je commence à faire le vide, je nettoie, après il dit, mais j'ai plus où l'attraper. Hein? Je ne peux plus le tenir. C'est comme un cochon graissé. Hein. On ne sait plus par où l'attraper. On ne peut pas le tenir. Ben c'est ça le chrétien qui se libère de son péché, qui se libère de pardon. Et qui, ben le diable, il ne sait plus comment l'arrêter. Et puis, il court. N'oublions pas l'instruction de l'Esprit-Saint qui est en nous. Hein, il dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit. Il y en a qui ils passent tout leur temps à essayer de perdre les habitudes. Ils disent non, n'essaye pas de casser. Les habitudes, elles sont là, elles sont dans ton corps. Marche selon l'esprit. Sois obéissant à l'enseignement de l'esprit. Et puis tu verras qu'il y a des choses qui vont partir tout seul. Et là. Hein, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, nous le voyons. Hein, toutes les luttes étaient réelles. Mais nous le voyons comme quelqu'un qui était victorieux et qui a été jusqu'au bout de la course. Eh bien, ce qui doit nous décourager, ce n'est pas le fait que nous ayons des luttes, mais faisons le nécessaire pour remporter la victoire. C'est pas le trajet pour tous les coureurs. C'est la même route. Hein. Là, actuellement, c'est le Tour de France. Ben, ils ont tous la même route, ils ont tous la même difficulté. La différence, se voit dans l'intérieur. Hein, combien on s'est préparé et combien on est préparé, c'est là la différence de celui qui l'emporte ou pas. Et c'est ça dans la vie chrétienne aussi. C'est l'œuvre qui se fait en nous et qui peut nous donner la victoire. Et puis, si je tombe, je me relève. Hein? Nous tous, ce matin-là, chacun sait marcher. Il y avait un jour où il ne savait pas marcher. Et un jour où chaque fois qu'il faisait un effort, il tombait. Mais la raison pour laquelle je marche encore aujourd'hui, c'est parce que la dernière fois que je suis tombé, je me suis relevé. Hein? Et c'est ça la vie chrétienne. La dernière fois où je suis tombé, je me suis relevé. Et si je suis tombé, que le Seigneur me relève. Seigneur, prends ma main. Et le Seigneur peut nous donner la victoire. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de lutte. La lutte, elle sera toujours. Mais s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de victoire à remporter. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir arriver, aller du point A au point B, et par la grâce de Dieu. Et finalement, une fois arrivé au point B, on aura vite oublié toutes les difficultés qu'on a eues sur la route. Parce que le Seigneur nous dit, quand on va arriver dans la gloire avec le Seigneur, le trajet, on l'aura vite oublié. Parce que ce sera tellement merveilleux d'être avec lui. Donc, persévérons, frères. Allons jusqu'au bout, mes sœurs. Et le Seigneur sera glorifié. Nous allons prendre un temps pour la prière. Et d'abord, peut-être il y a quelque chose, le Seigneur vous parle d'une force ou d'un quelque chose dans votre vie qui vous freine déjà. Et le Seigneur, je veux régler déjà ça. J'en règle un à la fois. Si vous n'arrivez pas à casser tout le fagot de bois, vous défaites le fagot et vous cassez chaque bâton, un à la fois. Donc, faisons ça avec notre vie spirituelle aussi. Je vais accorder un moment de silence durant lequel chacun pourra prier pour son propre cas, sa propre situation aujourd'hui, et après quoi je vais prier.